Amateurs de rock, le samedi soir, c'est à CKIA que ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi 21h.
Musique sans frontières, c'est du blues, du rock, du country américain, ainsi que des musiques variées.
Musique sans frontières avec Michel Giroux, c'est tous les samedis à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3, la radio urbaine à Québec.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 18 octobre 2024. La 35e édition de la Nuit des sans-abri au centre-ville de Québec a lieu ce soir à compter de 16h à Place de l'Université du Québec, au coin de la rue de la Couronne et du boulevard Charest. Depuis 1989, chaque automne, des personnes se rassemblent en signe de solidarité avec ceux et celles qui vivent dans la rue dans des conditions précaires et souvent intenables. La population est invitée à venir rencontrer, discuter, échanger et connecter avec différents organismes communautaires qui viennent en aide aux personnes en situation d'itinérance. En réponse au dépôt du rapport annuel 2023-2024 et à l'audition du Tribunal administratif du logement, le TAL, devant la Commission de l'administration publique, le regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec dénonce la cruauté de cette institution qui abandonne les locataires. Fin de citation. Revendiquant l'instauration d'un véritable contrôle des loyers au Québec, le regroupement qualifie le TAL d'appareil gouvernemental dysfonctionnel qui s'enfonce dans son parti pris en faveur des propriétaires, ferme la ligne aux citoyens-citoyennes et masque son incompétence derrière un langage tiré du monde des affaires. Composé du Centre du Rocher, de Commune Action 05 ans, du Service d'entraide Basseville et de la Dauphine, le regroupement 03 ans lance un appel aux dons. Le regroupement recherche plus particulièrement des poussettes, bassinettes, moïses, chaises hautes, couches, produits de soins ou tout autre matériel dont les parents d'enfants de 0 à 3 ans pourraient avoir besoin. Pour faire un don, rendez-vous dans l'un des 4 points de dépôt participants, soit la corde à linge du 165 rue Carillon, le support du rocher du 680 Raoul Jobin, la boîte à fripes du 155 avenue du Sacré-Cœur et le baby-boom de la Dauphine au 31 rue d'Auteuil. La population est invitée à assister à des ateliers, démonstrations, essais de flûte, cours de maître et plus encore dans le cadre des Journées de la flûte à Québec. Celles-ci ont lieu à compter de 9h aujourd'hui au Conservatoire de Québec, au 270 rue Jacques-Parizeau, et demain, également à compter de 9h, au pavillon Louis-Jacques-Cazot de l'Université Laval. L'événement gratuit culmine demain samedi en un concert réunissant des virtuoses de la flûte à la salle Henri Gagnon du pavillon Cazot. Le concert débute à 18h30. Québec en toutes lettres se déroule jusqu'au 27 octobre. Créé en 2010, ce festival est un rendez-vous incontournable du milieu littéraire, un moteur de création et un diffuseur de propositions inédites dans l'espace public. Pour la programmation, rendez-vous sur québecentoutelettres.qc.ca. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. plan d'eau trahit l'esprit qui l'habite. Il reçoit continuellement vie et mouvement en provenance d'en haut. Il est par nature à mi-chemin entre la terre et le ciel. Sur terre, seules l'herbe et les arbres ondulent, mais l'eau elle-même est ridée par le vent. Aux raies et flocons de lumière qui frappent sa surface, je vois en quel lieu passe la brise. C'est une chose remarquable que cette capacité que nous avons de baisser le regard vers sa surface. Un jour, peut-être, nous parviendrons à baisser partiellement les yeux sur la surface de l'air et voir les lieux où un esprit encore plus subtil vient le frôler.
Façon de nourrir la pensée. Je veux chemin nouveau à défricher. Je veux des lunes d'été à raconter. Je veux en nous-mêmes de nouveaux sols à irriguer. J'ai devant moi la vie.
Bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, on va parler de yoga. J'ai comme invité mon professeur de yoga, Jean-Pascal Vezin, qui enseigne le yoga. C'est un, on peut dire, un ancêtre du yoga. Il enseigne le yoga, je pense, depuis 40 ou 50 ans. Alors, c'est quelqu'un qui connaît le yoga. Puis, dans notre thématique de cette année, les liens, ben yoga en sanskrit, ça veut dire lien. Alors, on ne peut pas avoir plus approprié comme sujet de discussion. Donc, on va parler de yoga aujourd'hui. Avant ça, j'ai quand même quelques lectures que j'ai faites cette semaine, ma petite revue de presse. Ah, aussi, puis une annonce. Pour ceux qui s'intéressent, on aura un café philo à Sainte-Foy ce soir à 19h à la librairie La Liberté. Puis, il s'agit de téléphoner à la librairie pour s'inscrire, mais il reste de la place. Et c'est parce qu'on, pour qu'on puisse bien faire le café philo, il faut pas qu'il y ait plus qu'un certain nombre de personnes. Donc, la raison pourquoi on demande aux gens de s'inscrire, mais étant donné que les places sont limitées. Alors, dans les lectures que j'ai faites cette semaine, un bon texte de Jean-François Nadeau, qui écrit très bien, écrit des chroniques dans Le Devoir qui sont toujours intéressantes. Puis il y en a une cette semaine que j'ai retenue parce que je trouve que c'était dans le thème de l'émission. Là, il parle des pesticides. Alors, il raconte un fait. C'est une affaire judiciaire récente. Pose la question de notre affection béate pour les fleurs coupées. En France, la jeune Amy Marivin, 11 ans, est morte d'un cancer. Sa mère, une fleuriste, lui a transmis, sans le savoir, des substances toxiques accumulées dans son propre corps. La source du drame, les pesticides abondamment présents sur les tiges des fleurs coupées. Quand des fleurs sont manipulées à longueur de journée, des molécules chimiques finissent par faire un nid à la mort. Le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides vient de reconnaître ces faits. La floriculture, l'horticulture, les jardins et les pépinières sont en vérité loin d'être sans danger pour la santé. Sur les roses si prisées comme sur bien d'autres fleurs, quantité de molécules de plusieurs produits toxiques sont retrouvées. Une étude publiée dans Environmental Pollution en 2021 montrait que bien des pays producteurs de fleurs n'ont aucune limite quant à l'usage des pesticides. Pourtant, ces composés chimiques largement utilisés peuvent avoir des conséquences humaines terrifiantes. Au Canada, le glyphosate demeure l'un des ingrédients les plus couramment utilisés dans divers mélanges d'herbicides, rappelait l'agronome et enseignante Annick Larochelle il y a quelques jours dans les pages de la Terre de chez nous. Ce produit est connu du public sous la marque de Roundup. Plus de 800 000 tonnes de ce composé sont larguées chaque année dans la nature. Les composantes de cet herbicide total se retrouvent ensuite dans l'eau sous forme de résidus dans nos aliments. Quels sont les effets de cette utilisation massive? La réduction de la biodiversité, en particulier des micro-organismes dont celle-ci se nourrit, explique Mme Larochelle. Par ailleurs, l'usage de pesticides et des herbicides n'est pas étranger au déclin alarmant des oiseaux. Une bonne partie de ces produits se retrouve ensuite dans les aliments destinés aux bébés et aux enfants les plus vulnérables dans la population. Les personnes les plus exposées à ces produits risquent de développer plus vite que d'autres des cancers du système immunitaire. Aide-t-on pour autant les agriculteurs à changer leur façon de faire? Nous continuons comme si de rien n'était, bercés par les flots incessants de la société de consommation. Nous continuons contre raison et au mépris des conséquences d'abuser d'engrais, de fongicides, de pesticides, d'insecticides, d'herbicides, alouettes. Cette chimie qui nous envahit prospère grâce à un terrible laisser-faire. Même les fleurs, ce symbole de beauté, notre monde est parvenu à les faner. En tout cas, c'est toute une chronique. C'était dans Le Devoir de mardi, pour ceux qui s'intéressent, mardi le 15 octobre. Dites-le avec des fleurs, un article de Jean-François Nadeau. Il y avait aussi aujourd'hui dans Le Devoir, toujours intéressante, la chronique de José Blanchette. Une chronique, elle parle de un de ses amis qui est un ex-météorologue. Puis ces gens-là, les météorologues, eux autres, ils savent c'est quoi les changements climatiques. Puis ils nous expliquent que qu'est-ce qu'on dit, les climatologues disent, c'est conservateur. C'est qu'ils doivent, ils font attention pour pas se ridiculiser. Ils sont très, très prudents dans ce qu'ils disent. Alors, on a des données qui sont conservatrices. Puis lui, il dit, moi, en tant que météorologue, je suis très inquiet par rapport au changement climatique. Un article du Monde diplomatique demandait récemment, sommes-nous devenus des météomaniaques? C'est qu'on écoute la météo comme un spectacle. Les recherches de divertissement passent par là. L'illusion de contrôle sur notre environnement aussi. En fait, tous, on fait tous du show business. Mon ami Richard Harvey pleure déjà en observant une éclipse ou en chassant la comète C, mais il ne regarde jamais Météo Média. Je t'offre pas 3 minutes. Comme météorologue, il a travaillé pendant 33 ans pour Environnement Canada à fabriquer des modèles de simulation climatique qui allaient servir les décideurs de ce monde. Richard m'explique la théorie du chaos, sa passion, qui existe depuis seulement 60 ans. Là, on est dedans, littéralement. Et nous ne sommes qu'à 1,2 degrés Celsius. Les conditions pour favoriser ce chaos sont en place grâce aux humains. L'Anthropocène. Dans la mesure où les extrêmes seront de plus en plus soudains, ce n'est pas le réchauffement en soi qui est le problème, c'est la rapidité avec laquelle il se produit. Aucun écosystème ne pourra s'y adapter par voie d'évolution darwinienne, et encore moins notre société. L'idée même de civilisation est basée sur un climat stable, ce qui a été le cas depuis 5 à 8 000 ans. Alors, c'est assez inquiétant, et c'est un bon texte. Alors, c'est dans Le Devoir d'aujourd'hui, la chronique de José Blanchette, « De pluie et de chaos, la météo, nouvelle télé-réalité en direct ». Maintenant, évidemment, ce qu'il faut faire, il faut s'adapter. On est rendu là, on est dans l'adaptation. Alors, j'ai deux articles que j'ai retenus du Devoir, que j'ai trouvé intéressants. Dans Le Devoir de jeudi, le 17 octobre, page B4, la construction en chanvre en plein essor au Québec. Alors, on commence à construire. Il y a une entreprise qui est déjà installée dans les cantons de l'Est. C'est comme, on pourrait dire, le mur est en chanvre. C'est comme des gros blocs de chanvre. Et c'est vraiment un matériau de l'avenir, le chanvre. Beaucoup d'avantages, pas dispendieux, très efficace au niveau de l'isolation. Alors, ce que j'aime de ces choses-là, c'est comment quand on veut, quand on s'y met, on peut trouver des solutions, on peut s'y mettre. Et il y a plein d'idées qui sortent comme ça. Moi, j'ai tombé là-dessus cette semaine. Alors, je vous recommande cet article dans Le Devoir de jeudi 17 octobre, la construction en chanvre en plein essor au Québec. Finalement, dans Le Devoir de mardi dernier, page B5, un article de Marco Fortier, la ville éponge contre les inondations. C'est que aussi, dans nos façons de construire, c'est que les villes sont inadaptées pour supporter la quantité de pluie, des pluies qu'on a, qui sont importantes. D'ailleurs, on en parle depuis quelque temps. Les sous-sols, ça va devenir quelque chose du passé. En tout cas, si moindrement on est à risque d'inondation, puis parfois on ne le sait même pas, mais on est en zone inondable, là. Alors, les pluies torrentielles, comme celle du 9 août dernier, donnent des maux de tête aux élus municipaux qui doivent gérer des milliers de sous-sols inondés et même des routes et des maisons détruites par la montée des eaux. Malgré des investissements records dans les canalisations souterraines, on parle de la Chine. La Chine, qui possède une expertise millénaire dans la gestion des inondations, est susceptible d'inspirer les dirigeants québécois. Les villes éponges absorbent l'eau plutôt que la diriger massivement vers les conduites souterraines aux capacités limité. Nos conduites d'eau n'ont pas la capacité de supporter les pluies qu'on a. Alors, il faut réduire la quantité d'eau qui s'en va dans les canalisations. Depuis l'empereur Dayu, fondateur de la première dynastie chinoise il y a plus de 4200 ans, les dirigeants de l'Empire du Milieu tirent leur légitimité de leur capacité à maîtriser les eaux et à éviter les inondations. Il s'agit d'une habileté incontournable dans ce gigantesque territoire où la saison des pluies dépose des quantités d'eau phénoménales. En juillet 2023, il est tombé 745 mm de pluie en 3 jours et demi dans un secteur de Pékin. Le Québec n'est pas la Chine et nos précipitations n'ont rien à voir avec celles des pays d'Asie, mais les épisodes de pluie intense survenus au mois d'août représentent le double de la moyenne des 20 dernières années, rappelle la communauté métropolitaine de Montréal. Dans ces circonstances, des experts consultés par Le Devoir prônent l'adoption du concept de ville-éponge pour réduire les effets dévastateurs des changements climatiques. Puis on a déjà commencé à Montréal. Il y a une illustration, une belle photo là, dans l'article du Devoir, la place des fleurs du macadam, un espace vert du plateau Mont-Royal, est conçu pour se remplir d'eau lors de pluies fortes. Alors, ils ont testé même, ils ont mis des quantités phénoménales d'eau et tout était absorbé comme une éponge. C'est des choses qu'on va devoir de plus en plus s'adapter. J'ai terminé ma revue de presse et mes annonces, donc on prend une petite pause musicale, puis au retour, on parle de yoga.
Je cours après la lune, faite d'une histoire ancienne. Je sais qu'il en est une et qu'elle en vaut la peine. Cet astre de mystère a une année de lumière, a inspiré des vers aux gens humains sur terre. J'irai bien la visiter, lui chanter une mélopée, faire de cet envolé la plus belle des odyssées. Je cours après la lune, faite d'une histoire ancienne. Je sais qu'il en est une et qu'elle en vaut la peine. Cet astre de mystère a une année-lumière, a inspiré des vers aux gens humains sur terre. Y serais-je trop tôt? Je m'y rends sans vaisseau. L'espace céleste est beau, je cherche encore les mots.
C'était Jean-Marc Aurel en primeur pour les auditeurs dans toute simplicité. C'est son dernier CD qui est pas encore... il était à veille de sortir. Là, il nous a envoyé en primeur une copie démo de son dernier CD. Je cours après la lune. Alors, voilà. Alors, on va commencer notre discussion sur le yoga. Bonjour Jean-Pascal.
Eh bien, bonjour Jacques. Bon matin.
Bon matin. Et comme je disais, nous, en simplicité volontaire, on dit moins de bien, plus de liens, puis ça donne bien. Le yoga, c'est les liens. Je vais vous lire un petit extrait d'un livre de Christophe André, que j'aime beaucoup, qui écrit sur la méditation, puis il parle on va mettre la table, disons, par rapport à notre discussion. Alors, pendant longtemps en Occident, méditer consistait à réfléchir longuement et profondément sur de grands sujets, la vie, la mort, l'infini ou l'au-delà. Les philosophes méditaient, les poètes méditaient, mais sous l'influence des écoles orientales notamment, la méditation telle que nous la comprenons aujourd'hui ne se limite plus à un seul travail intellectuel. Elle ne consiste plus seulement à réfléchir avec son cerveau, les yeux fermés, le corps immobile, comme inactif, inutile. Méditer, aujourd'hui, c'est modifier son esprit à l'aide de son corps. Alors, c'est ça qui est nouveau. Les Orientaux ont introduit l'idée du lien avec le corps. Et il est là, le lien avec yoga. C'est savoir réfléchir et ressentir. C'est comprendre que le bon usage du corps ouvre de nouvelles portes pour celui de l'esprit. C'est ça, le yoga. Nul ne sait ce que peut le corps, écrit Spinoza. Existerait-il alors une sagesse intrinsèque du corps qu'il conviendrait d'écouter et de laisser s'exprimer? Quel rapport avons-nous avec notre corps? Nous entretenons en général un rapport utilitaire avec notre corps. Nous le sollicitons comme un outil pour qu'il nous permette d'agir ou de prendre du plaisir, parfois aussi, et nous n'aimons pas cela. Il se rappelle à nous pour nous faire souffrir. Et le plus souvent, on en reste là, on oublie son corps et on redevient pur esprit. On s'identifie à ses pensées et à ses envies. Ce type de rapport à notre corps, quelque chose d'absurde et d'irrespectueux, et surtout de très limité. Si nous nous en donnons la peine, si nous en faisons un peu plus pour lui, notre corps en fera beaucoup plus pour nous. Mais comment développer avec notre corps un rapport moins utilitaire et plus égalitaire, un rapport d'association plutôt que de domination? C'est exactement l'ambition de la méditation, cet art de cultiver un esprit mobile grâce à un corps immobile mais pleinement actif. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma présentation de Christophe André?
Oui, tout un texte qui, évidemment, qui mériterait plusieurs commentaires. Là, on est parti sur le thème de la méditation, alors que communément, quand on parle de yoga, on pense presque immédiatement à une activité physique, à l'aspect physique, corporel du yoga. On devrait dire psychocorporel, parce que, comme l'explique le texte, une action sur le corps agit sur le psychisme, sur notre monde intérieur. Mais communément, dans le grand public, yoga, bon, on voit tout de suite l'image de la personne, du yogi installé sur sa tête, les pattes en l'air. Donc ça, c'est quand même un aspect important qui est peut-être le plus connu en Occident. Le yoga physique, le yoga corporel, c'est celui qu'on pratique le plus, avec dans les cours un petit peu de méditation quand même, qu'on introduit par-ci, par-là. Alors que le texte de Christophe André, là, développe quand même bien le thème de la méditation, qui est en fait, je dirais, l'objectif du yoga, à partir d'un travail sur le corps et sur la respiration qui est centrale à la pratique yogique, eh bien, on veut aller vers des pratiques méditatives pour expérimenter, pour atteindre ce qu'on pourrait appeler l'état de méditation. On parle beaucoup des techniques de méditation, mais ces techniques sont là pour nous permettre d'expérimenter, de découvrir, d'approfondir un état d'être qui se présente à travers, on pourrait dire, différents niveaux, différents niveaux de conscience. On est là dans le domaine de la conscience. Le yoga vise à s'éveiller à ces différents plans de conscience. C'est ce que je peux dire à partir de ce texte pour commencer.
En passant, petite parenthèse, je t'ai pas présenté au début, Jean-Pascal Vézin, tu as ton centre de yoga, qui est le centre de yoga, le Lotus.
Oui, exact.
J'ai oublié de dire ça au début. Puis je pense que tu t'es donné un nom de yogi aussi.
Oui, je porte un nom de yogi, comme on en rencontre dans le domaine du yoga. Je ne le porte pas nécessairement sur la place publique, là.
Ouais.
Mais je porte un nom de yogi qui exprime pour moi une qualité particulière ou un objectif de vie particulier, de réalisation, d'accomplissement personnel que je cherche à atteindre. Donc souvent ces noms que l'on dit yogiques ou initiatiques, ils ne sont pas choisis comme ça, juste parce qu'il y a une belle sonorité, comme par exemple, je ne sais pas, un nom d'artiste. Les artistes prennent des noms aussi, vont changer de nom pour avoir peut-être des noms plus commerciaux, plus promotionnels, je ne sais trop. Mais les noms yogiques expriment une recherche, un objectif de la personne que la personne cherche à atteindre.
Qui est ton nom yogique, qui est?
Oui, et en plus, je vais le préciser, c'est non seulement yogique, mais je pourrais dire que je suis un swami. Les swamis dans la tradition yogique sont des, on pourrait dire des chercheurs spirituels qui ont fait vœu de, on pourra peut-être parler des conditions de la pratique du yoga et des règles à la base qui existent pour cette pratique. Les swamis ont fait vœu de renoncement et donc adhèrent à une simplicité volontaire, en fait, si je peux rejoindre le thème que tu développes ici. Donc les swamis sont des sannyasins, ce sont des... Alors, tout ça pour dire que mon nom yogique officiel, c'est Swami Ujjayi Ananda. Swami Ujjayi Ananda.
Ouais. Voilà. Quand on se rencontre, j'utilise toujours Jean-Pascal.
Oui,
on se connaît comme une façon informelle de se... Mais
c'est
quand même une démarche personnelle, de développement personnel.
Tout à fait.
Mais je parlais de ça, que nous, à l'émission, on parle beaucoup de la philosophie de l'Antiquité, parce que dans l'Antiquité, la philosophie, c'était un mode de vie, puis les philosophes de l'Antiquité pratiquaient un mode de vie sobre. Ils pratiquaient, c'était ça, ils étaient des simplicitaires. Là. On pense, le plus bel exemple, là, c'est l'empereur de Rome, Marc Aurèle, qui vivait très simplement, alors qu'il était l'empereur de Rome. Là. Il s'imposait même une discipline. Il dormait sur une espèce de paillasse. Là, pour lui, c'était important. Puis il buvait pas de vin. Il était un peu, d'ailleurs, à son époque, les autres autour de lui qui vivaient dans l'abondance... Il le trouvait un peu extrême, là, mais il s'imposait une discipline de vie.
Oui.
Mais
oui.
On a ça en Orient aussi, avec les swamis, les taoïstes.
Tout à fait.
C'est comme universel chez les gens qui font une démarche intérieure de vivre une sorte de sobriété, simplicité volontaire.
Tout à fait. C'est une condition, en fait, pour aller dans le sens de cet accomplissement intérieur et personnel. Il faut que notre recherche soit basée sur des fondations, alors, de simplicité, de différentes qualités. Pour résumer ces qualités et ces règles de vie, on pourrait dire qu'il faut que la base soit une vision, je dirais, positive, le plus possible positive de la vie, et à travers des règles d'équilibre, à travers une certaine éthique, à travers des règles morales. Enfin, je pourrais lire, là je les ai apportés, la liste des qualités qu'on demande à la base, et à partir de laquelle, ben là on va aller vers la pratique des postures, vers la pratique de la méditation. Mais ces pratiques, on pourrait dire plus avancées, ne seront pas efficaces si elles ne sont pas pratiquées sur une base personnelle relativement stable. On n'attend pas d'être parfait pour pratiquer tout ça. Mais on commence quand même par stabiliser ces fondations à travers une vision positive, un respect de la vie. peut-être on connaît assez bien le thème de la non-violence, hein, qui caractérise assez bien l'Inde et la philosophie orientale. Bien, la non-violence, ahimsa, c'est une des qualités majeures de cette éthique personnelle, oui, qui doit être cultivée dans la mesure du possible. Puis il y en a d'autres. Il y a le fait d'être vrai, de ne pas mentir. Enfin, il y a la liste des choses qu'on doit faire et la liste des choses que l'on ne doit pas faire. Donc ça rejoint une certaine morale aussi que nous pouvons connaître aussi de notre côté en Occident. Et à partir, donc pour dire, de cette éthique, eh bien, on va aller vers les autres étapes qui ont été définies, si je peux le mentionner tout de suite, par un maître de sagesse qui s'appelle Patanjali, et qui, dans les environs de un peu avant ou après la naissance du Christ, on arrive difficilement à situer exactement la date où il a rédigé, on pourrait dire, un des premiers textes fondateurs du yoga, mais précisons-le, du yoga de la méditation. On pourrait dire qu'il y a un yoga des postures, de la relaxation, de la respiration, et puis, à côté de cela, il y a un yoga qui s'intéresse davantage à la méditation. Et pourquoi la méditation? Pour, à travers ces techniques, se réaliser, s'accomplir, se centrer, se retrouver, je dirais, intimement, intérieurement. Et à partir de là, eh bien, un, se relier à soi-même, on parlait de lien, se relier à soi-même, et à un deuxième niveau, se relier, on pourrait dire, à l'univers, à la vie, à l'environnement, aux autres. On pourrait dire, donc, il y a deux, dans la recherche du yoga, il y a deux niveaux. Il y a les pratiques yoga qui nous aident personnellement à nous apaiser d'abord, à nous détendre. On recherche beaucoup le yoga pour la relaxation. On ne parlera peut-être pas de la gestion, du stress là, qui caractérise nos sociétés occidentales actuellement. Mais il y a cette recherche quand même de paix, d'apaisement, de centration qui est importante à la base. Et puis il y a cette autre recherche à travers la méditation pour aller véritablement vers ce qu'on appelle la réalisation de soi, l'accomplissement. L'accès à une conscience, on pourrait dire, totale. Si je peux me permettre, là, j'ai trouvé cette phrase là que j'ai notée et qui résume un petit peu là, ce que je viens de dire. L'éveil spirituel et la réalisation de soi sont l'une des quêtes de la philosophie du yoga. Ces principes enseignent la contemplation, la maîtrise de l'esprit et la méditation profonde pour dépasser les limites de l'ego et atteindre une conscience pleine et totale.
C'est magnifique. Et on va méditer là-dessus. On va prendre une petite pause musicale.
Bonne idée.
Puis on revient, on poursuit notre discussion sur le yoga. Alors, on ne pouvait pas avoir une émission sur le yoga sans avoir un peu de musique de l'Inde. Alors, c'était Ravi Shankar. De la pièce c'est, s'appelle Supplication. C'est de l'album Tana Mana. Avant ça, on avait eu Richard Séguin, comme d'habitude. C'était Devant moi la vie, Richard Séguin.
Très beau.
Alors, on poursuit avec Jean-Pascal Vezin, mon prof de yoga, du centre de Le Lotus.
Oui, tout à fait. Alors, c'est amusant de se retrouver ici.
Ben oui.
On se rencontre de façon hebdomadaire dans un cours de yoga.
Depuis quelques années.
C'est pas le même environnement. Depuis plusieurs années, effectivement, avec grand plaisir, oui.
Oui, c'est réciproque. Oui. Ouais. C'est comme, j'aime beaucoup, c'est un yoga très soft là, qu'on fait, mais c'est comme une méditation, dans le fond. C'est que ce que j'aime du cours de yoga, puis c'est comme ça me rappelle le lien au corps, toujours de prendre conscience de mon corps, parce que malheureusement, c'en est un lien, ça, qu'il faut redévelopper, le lien au corps, c'est qu'on est... On vit pas dans notre corps, on vit dans notre tête. On est dans une société qui est complètement mentale. Et le cours de yoga que j'ai, c'est au moins une heure par semaine, je me donne un moment de réintégrer mon corps. Puis c'est comme une méditation, dans le fond. On oublie... En faisant ça, c'est comme une longue méditation avec les exercices de respiration, tout ça. On sort du mental, finalement.
Oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant que tu l'exprimes ainsi, Jacques, parce que la définition classique du yoga, qui a été définie justement par ce maître que je mentionnais précédemment, Patanjali, il a écrit un texte qui n'est pas plus qu'une dizaine, une douzaine de pages, sous la forme de petites phrases souvent énigmatiques. Quand on ne pratique pas le yoga ou la méditation, on a de la difficulté à comprendre ce qu'il veut dire. Mais ce sont ce qu'on appelle des aphorismes, des sutras, comme on les rencontre dans la tradition bouddhiste. Donc des petits énoncés qui expriment d'abord l'objectif du yoga. Il y en a, de ces énoncés, il y en a un peu moins de 200. Et ça commence comme ça. C'est intéressant de le partager, je pense, ici. Le premier sutra, le premier aphorisme exprime, voilà, nous allons exposer le yoga traditionnel. Bon. Le deuxième aphorisme dit, il donne tout de suite la définition du yoga. Perdons pas de temps, allons au vif du sujet. Le yoga est l'arrêt des fluctuations du mental et de l'activité psychique. That's it. That's all, comme on dit bien couramment ici. Oui.
Donc c'est une méditation.
Les techniques sont là pour apaiser, centrer, apaiser, et même stopper finalement cette activité mentale incessante à travers des pensées où l'une nous entraîne à une autre à une troisième, et ainsi de suite. Souvent, nos mentales, en plus d'occidentaux, sont souvent très, très soumis à la dispersion mentale, sans parler des pensées répétitives, redondantes, qui nous envahissent en lien avec nos inquiétudes, avec nos anxiétés, nos croyances aussi. Donc le yoga veut, par ses techniques, il veut apaiser tout ça. Et c'est ce qu'on trouve quand même dans la plupart des cours de yoga. On offre des pratiques d'apaisement, de détente, de relaxation, on pourrait dire de gestion du stress. Et en ce qui me concerne comme professeur, j'ai toujours eu à cœur de proposer un yoga, oui, tu disais soft, un yoga soft et doux. Pourquoi ? Pour qu'il soit adapté à chacun et chacune, où nous ne sommes pas des acrobates, on ne passe pas des heures de temps par jour comme les yogis professionnels, comme je les appelle, à pratiquer ces choses-là. Donc il faut que ce soit, à mon avis, un yoga accessible et adapté, et présenté, je penserais, et je pense que tu l'exprimes, tu le partages, dans un climat plutôt méditatif. Donc un climat qui met plus l'accent sur la conscience du geste, la conscience de soi à travers les pratiques respiratoires qu'on peut pratiquer, à travers les étirements, les postures, ce qu'on appelle les asanas en sanskrit, ces fameuses postures de yoga. Mais tout ça présenté dans une ambiance, je pense, assez méditative. Et je pense que ça plaît beaucoup, cette approche-là.
Oui, ben c'est ça aussi. Le yoga, ça vient de l'Orient, mais ça s'est occidentalisé. Puis là, maintenant, même exact. Que parfois, il y a des cours de yoga que c'est uniquement physique, on ne voit pas le lien, ou presque uniquement physique. Oui. Mais là, j'ai lu un peu là, sur le yoga avant. Puis même en Inde, même traditionnellement, il y avait multiples écoles de yoga, puis de façons, puis de, c'était des multitudes. Alors, on pense yoga, c'est une chose, mais c'est multiple. Mais il y a toujours le côté physique qui est là. Mais le côté méditatif, spirituel, même en Inde, il n'était pas toujours là. Mais comme le magnifique Patanjali, c'est un grand classique du yoga. Lui, il commence à dire que le yoga, c'est une méditation, lui, carrément. Là.
Oui. Son traité de qu'on appelle les Yoga Sutras de Patanjali, des aphorismes sur le yoga de Patanjali, c'est un ouvrage qui parle de comment maîtriser l'esprit, comment maîtriser le plan psychique pour atteindre à un éveil de conscience, à une réalisation de soi. Donc lui parle très très peu des postures de yoga, il les mentionne, mais c'est pas un livre de yoga comme on peut en trouver là dans les librairies actuellement. Il y en a tellement qui se sont fait éditer ces dernières années, basés sur la pratique des postures, de styles très variés effectivement, Jacques. Il y a beaucoup de styles. Et pour moi, je trouve que c'est ça un peu la merveille du yoga aussi. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour des sportifs, il y en a pour des personnes qui le sont moins, qui veulent juste une détente. On trouve tous les styles variés. Et je dirais que tous ces styles-là, même y compris les plus performants sur le plan physique, favorisent malgré tout, même si la dimension méditative ou spirituelle n'est pas toujours présente, loin de là, tous ces yogas malgré tout favorisent à différents degrés, un certain éveil de conscience, de conscience à soi, d'abord, de conscience à soi-même, et ultimement, peut-être moi maintenant, mais dans une incarnation future, un éveil de conscience à une réalité plus vaste qu'on peut nommer de différentes façons. C'est la conscience universelle, la conscience cosmique, conscience divine. Le yoga vise à cela, bien sûr, à travers cette démarche à travers différentes étapes. On pourrait éventuellement parler de ces étapes-là. On a commencé à le faire à partir des observances, de l'éthique que je mentionnais tout à l'heure. Et à partir de là, on accède aux postures, la pratique posturale, mais dans la pensée de Patanjali, la posture, c'est essentiellement la posture assise. Un peu comme l'exprimait le texte de Christophe André, c'est la posture assise et immobile qui va permettre aussi d'immobiliser la pensée, l'activité psychique, la ralentir dans un premier temps et puis s'apaiser, se centrer intérieurement. Et à partir de... Pour favoriser cet apaisement mental, intervient l'étape de la respiration, ce qu'on appelle pranayama, toutes les pratiques respiratoires de contrôle de l'énergie vitale qui nous animent. Et ça, ce sont les étapes préparatoires un peu incontournables pour rentrer de plein pied, enfin, dans la pratique méditative. Et cette pratique méditative, elle commence par ce qu'on enseigne assez souvent dans les cours de yoga, la concentration, l'attention, la présence active à soi. Donc ça, c'est l'étape concentration. On appelle ça dharana en sanskrit. Cet état de concentration nous permet de développer une pensée ou une attention soutenue dans le temps. Et c'est cela que le yoga définit comme la méditation. La méditation est cet état où ta pensée concentrée se maintient sans être dérangée, sans être perturbée. Et ceci devrait nous amener à l'étape ultime qu'on appelle samadhi, l'état, pourrait-on dire, supérieur de conscience, un état d'être dans lequel tu es en contact avec ton moi profond. La psychologie appellerait cela le moi profond. Carl Jung, le psychanalyste, parle du soi avec un grand S, le soi profond qui nous anime. Autrement dit, l'essence de ce que nous sommes, l'essence de notre être. Et dans cette conscience-là, on se rend compte que, pour reparler du lien, eh bien, on entre en lien avec la totalité, avec tout, ce que les Indiens appellent l'absolu, Brahman.
Christophe André, ce que j'aime beaucoup, lui, il a développé ce qu'on appelle la méditation laïque. Il a enlevé toutes les connotations.
Oui.
Mais c'est très bien, parce que ça revient au même, dans le fond. Parce que quand on médite, dans le fond, que ce soit laïque ou quoi que ce soit, c'est plus le mental. C'est que, justement, on a cessé de... Le mental, et puis là, c'est une concentration.
C'est une expérience. C'est une expérience vécue. C'est pas une croyance.
C'est une expérience vécue. Et Christophe André, il a écrit plusieurs livres sur la méditation. C'est vraiment bon. Il a le tour, c'est un bon communicateur. Ce livre-là, l'extrait que j'ai lu, c'est « Le temps de méditer » par Christophe André. Puis, en fin de compte, il explique la méditation comme tout simplement un exercice de concentration. Être capable de se concentrer, puis c'est pas facile de se concentrer. Alors, on peut se concentrer sur le souffle, mais on peut, en pratiquant beaucoup, là, on peut arriver à peut-être une minute, qui était tout un exploit, là, d'être concentré sur le souffle, sans qu'une pensée intervienne. Mais il faut pas lutter, c'est comme normal. Notre cerveau est fait pour penser. Alors, on peut pas, et c'est inévitable. Mais là, je sais pas comment ils font, mais des grands maîtres de méditation peuvent être des heures concentrées sur la respiration. C'est des gens qui méditent des heures et des heures par jour.
C'est ça,
je ne sais pas comment ils y arrivent,
c'est
difficile.
C'est un entraînement. Comme je les appelle, c'est des professionnels de yoga ou de la méditation, et ça prend effectivement des heures et des heures. Mais sans aller jusque-là, tout un chacun peut expérimenter des moments de paix intérieure, pas nécessairement grâce au yoga, en dehors du yoga, multiples autres expériences ou approches.
C'est d'être présent dans notre environnement, c'est une forme de méditation. Écoute, on prend une dernière pause musicale, puis après ça, on va conclure. Il va nous rester quelques minutes pour conclure l'émission. Alors, c'était une belle musique méditative. La musique, c'est une façon de nous aider justement à devenir présent dans le moment présent. C'est Nathalie Choquette. C'est un coffret de 3 CD de musique sacrée qu'elle a fait, qui est magnifique. La pièce que j'ai jouée, c'est Ombra Me Fu. C'est Handel. C'est une pièce de Handel. Le nom du coffret, c'est Lux Eterna, ça veut dire lumière universelle, Lux, A-E-T-E-R-N-A. C'est une trilogie, 3 CD, Nathalie Choquette. Alors, Jean-Pascal, il nous reste une minute. Pour conclure.
Alors, c'est infiniment vaste sujet que le yoga
oui.
et la méditation.
Oui. Alors, on conclut comment, Pascal? Qu'est-ce que Jean-Pascal?
Oui. Ce que j'aimerais rajouter en terminant par rapport à tout ce que j'ai dit, c'est que ça pourrait donner l'impression que c'est, tout ça est un peu éloigné de nous. Il faut pratiquer beaucoup, il y a des techniques. C'est beaucoup plus simple que cela. Il suffit de s'arrêter un peu, de calmer son esprit, de se centrer un tant soit peu et d'être à l'écoute de soi-même pour s'ouvrir à cette réalité qui nous habite et que nous sommes. Donc, c'est pas dans le ciel, c'est ici. Tout proche, dans notre cœur, en particulier dans notre cœur qui est au centre de notre être. Alors, c'est ce que je souhaite à tout le monde de découvrir cela.
Bien, merci beaucoup. Alors, comme je disais, c'est mon invité de cette semaine, mon prof de yoga, Jean-Pascal Vezin, du centre de yoga, le Lotus. Et voilà, alors je vous rappelle qu'il y a un café philo ce soir à 19h et à la librairie de la Liberté. Vous pouvez vous inscrire et... Merci encore, Jean-Pascal, et merci. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine.
Merci, Jacques, de ton invitation.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Québec Réveil, c'est l'émission matinale de CKIA, et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualités locales, enjeux sociaux, culture, sport, politique. Prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Faites la connaissance de gens d'ici qui travaillent sur le terrain pour faire de Québec une ville plus juste et plus belle. Québec Réveil, du lundi au vendredi, dès 7h30.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 18 octobre 2024. La 35e édition de la Nuit des sans-abris au centre-ville de Québec a lieu ce soir à compter de 16h à Place de l'Université du Québec, au coin de la rue de la Couronne et du boulevard Charest. Depuis 1989, chaque automne, des personnes se rassemblent en signe de solidarité avec ceux et celles qui vivent dans la rue dans des conditions précaires et souvent intenables. La population est invitée à venir rencontrer, discuter, échanger et connecter avec différents organismes communautaires qui viennent en aide aux personnes en situation d'itinérance. En réponse au dépôt du rapport annuel 2023-2024 et à l'audition du Tribunal administratif du logement, le TAL, devant la Commission de l'administration publique, le regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec dénonce la cruauté de cette institution qui abandonne les locataires. Fin de citation. Revendiquant l'instauration d'un véritable contrôle des loyers au Québec, le regroupement qualifie le TAL d'appareil gouvernemental dysfonctionnel qui s'enfonce dans son parti pris